Canal Académie. L'entretien de la semaine. Rencontre avec une académicienne.
C'est l'histoire d'un homme qui tombe d'un immeuble de 50 étages. Le mec, au fur et à mesure de sa chute, se répète sans cesse pour se rassurer. Jusqu'ici, tout va bien. Jusqu'ici, tout va bien. Jusqu'ici, tout va bien. Certains d'entre vous auront peut-être reconnu la célèbre réplique qui ouvre et qui clôt le film de Mathieu Kassovitz, La Haine, sorti en 1995. C'est une image forte que reprend l'ingénieure agronome Tatiana Giraud dans son dernier livre L'attention aux vivants pour illustrer notre aveuglement face à l'effondrement évident de la biodiversité. Car si le sujet de la crise climatique a fini par s'imposer dans les consciences et le débat public, la diversité de nos espèces vivantes est aujourd'hui reléguée au second plan. Et aujourd'hui, Tatiana Giraud, directrice de recherche CNRS et membre de l'Académie des sciences, souligne le rôle crucial de cette biodiversité dans le maintien de l'équilibre écologique. C'est tout l'objet de ce livre, L'attention aux vivants, dans lequel elle remonte le fil de l'évolution pour nous montrer comment les théories de Charles Darwin nous permettent de comprendre l'équilibre complexe de nos écosystèmes. Et nous avons la chance de la recevoir dans notre studio aujourd'hui à l'Institut à Paris. Tatiana Giraud, bonjour.
Bonjour.
Et merci d'être avec nous aujourd'hui. Alors, vous partez d'un constat assez alarmant dans l'introduction de votre livre. Vous citez une étude très sérieuse publiée par l'ADEME, l'Agence de l'environnement et de la maîtrise de l'énergie, qui donne ce chiffre. 43% des Français se déclarent préoccupés par les conséquences de l'effet de serre et du réchauffement climatique, contre seulement 16% qui se disent inquiets de la dégradation de la faune et de la flore. C'est un écart flagrant. Le destin de la biodiversité inquiète moins que le réchauffement, alors que la situation est tout autant dramatique. Pourquoi ?
Alors, on peut imaginer qu'il y a plusieurs causes à ce décalage. D'un côté, clairement, on en parle moins dans les médias pour l'instant. On parle beaucoup et de plus en plus du dérèglement climatique. On en voit de plus en plus les conséquences avec des canicules à répétition, des inondations, des ouragans, etc. Et on a l'impression de moins se rendre compte des effets directement pour l'être humain de l'effondrement de la biodiversité. Alors qu'en fait, si on réfléchit bien et si on regarde les études scientifiques, beaucoup de ces conséquences du dérèglement climatique sont en grande partie liées aussi à l'effondrement de la biodiversité. Par exemple, les inondations, si elles sont de plus en plus fortes et fréquentes, c'est autant parce que la biodiversité disparaît que parce qu'il y a un dérèglement climatique. Parce que un des services écosystémiques qu'on tire de la biodiversité, c'est-à-dire des bénéfices qu'on tire de l'existence de la biodiversité, c'est un peu un effet tampon de la biodiversité, de ces crues, de ces inondations, c'est plus extrêmes, parce que les zones humides, comme des marécages, permettent de stocker l'eau quand il y a trop d'eau et les relarguent en période de sécheresse. Et donc, c'est à la fois la disparition de ces zones de biodiversité, ces zones humides, qui aggravent les crues et les périodes de sécheresse, autant que le dérèglement climatique. D'autant plus qu'on sait que la biodiversité permet d'absorber une partie du CO2, par exemple, qui est émis dans l'atmosphère. Donc plus la biodiversité disparaît aussi, plus ça accentue le dérèglement climatique. Donc c'est intimement lié.
Les deux notions sont interdépendantes. Donc, les deux notions biodiversité et réchauffement climatique. Mais juste un mot sur l'histoire du terme biodiversité. Platon et Aristote s'intéressaient déjà à la diversité du monde vivant dans le temps, mais le terme précis biodiversité, lui, est tout récent. Il est forgé dans les années 80-86, pour être précis. Et il est forgé pour dénoncer le déclin de la diversité biologique. Donc c'est un mot qui est né dans un contexte de crise qui est vraiment à l'interface entre le scientifique et le politique. Et votre livre s'inscrit exactement dans cette même interface.
Les mots sont vraiment importants pour se rendre compte des phénomènes. Tant qu'on nommait pas les choses, c'est comme vous venez de dire le déclin de la biodiversité. Quelque part, en fait, les mots sont vraiment importants. Et c'est ce qui se passe, c'est même pas un déclin, c'est un effondrement global de la biodiversité. Quand on regarde la rapidité avec laquelle les espèces disparaissent, c'est plus un effondrement qu'un déclin. On peut comparer la vitesse avec laquelle les espèces disparaissent avec les dernières crise de la biodiversité. On sait qu'il y a eu 5 grandes crises majeures de la biodiversité, 5 extinctions de masse. Et si on regarde la vitesse de disparition des espèces actuelles, elle est supérieure à la dernière extinction de masse. Donc on pourrait vraiment dire qu'on est dans la 6e extinction de masse.
Et effectivement, donc les études parlent de dégradation, mais comme vous le disiez à l'instant, il vaut mieux parler d'effondrement. C'est tout comme on parle de facteurs humains, il vaut mieux privilégier le mot responsabilité humaine. Les mots ont leur importance. Et vous revenez sur toute l'importance de la biodiversité que vous présentez comme une solution au réchauffement climatique. Alors, on ne va pas revenir dans le détail dessus, mais la biodiversité, par exemple, les forêts sont des puits de carbone, les océans également, ils captent 30% des émissions grâce aux phytoplancton, qui sont des algues microscopiques. Bref, la biodiversité est essentielle, mais maltraitée aujourd'hui. On va faire un état des lieux tout à l'heure. Mais d'abord, Tatiana Giraud, je vous propose de nous expliquer le fonctionnement de cette biodiversité, puisque avant d'agir dessus, il faut pouvoir la comprendre. Or, tous ces écosystèmes qui nous entourent reposent sur une science complexe. Ce qu'il faut d'abord retenir, c'est que la main de l'humain contribue à développer cette biodiversité, mais elle contribue aussi à l'appauvrir. Et donc, dans ce livre, vous nous donnez un exemple très concret qui montre comment la main de l'homme peut appauvrir cette biodiversité. Cet exemple, il peut étonner au premier abord. C'est l'exemple des moisissures qui sont présentes dans les fromages bleus, le roquefort, le gorgonzola. À ce stade, on peut se demander, mais quel est le rapport entre l'effondrement de la biodiversité et ces moisissures dans le fromage ?
Effectivement, c'est un bon exemple. On utilise des champignons, hein, sous forme de moisissures, pour fermenter, affiner les fromages. La couverture blanche et duveteuse qu'on voit sur le camembert, hein, c'est une moisissure, c'est un champignon. Ou dans les fromages bleus, le bleu qu'on voit à l'intérieur, c'est des spores du champignon. Et ils sont essentiels pour fermenter et affiner le fromage, pour développer des arômes et transformer les sucres et les gras qu'il y a au départ. Et on a vraiment domestiqué ces moisissures. Hein. De la même façon qu'on a domestiqué le chien ou le maïs, les êtres humains ont choisi de génération en génération les moisissures qui faisaient le meilleur fromage. Ils ont sélectionné les meilleures souches. Et donc, il y a eu une période où il y a eu une diversification sous la main de l'homme. C'est dans ce sens-là que j'entends la main de l'homme peut enrichir la biodiversité. Et d'ailleurs, depuis Charles Darwin, on utilise beaucoup la domestication comme un modèle pour comprendre l'évolution et l'adaptation, parce que c'est une forme d'évolution rapide et d'adaptation rapide sous la main de l'homme. Par exemple, pour le maïs, les premiers agriculteurs ont collecté les plus gros grains qu'ils ont semés, puis ils ont récolté à nouveau les plus gros grains qu'ils ont semés. De génération en génération, la plante sauvage, la théosinte, qui avait des tout petits grains très durs, a fait petit à petit des plus gros grains, plus riches en amidon, plus faciles à récolter parce qu'ils restaient sur l'épi. Pour le fromage et les moisissures du fromage, c'est exactement la même chose. Au départ, ils devaient sûrement avoir des arômes pas forcément aussi agréables, et puis petit à petit, on a sélectionné les meilleures souches et on a diversifié. De la même façon qu'on a généré plein de races de chiens très différents en termes de comportement, de taille, de robe, on a aussi sélectionné plein de races de maïs différents. Et ben, on a aussi sélectionné plein de formes de champignons différents. C'est pour le roquefort, par exemple, chaque maison a sa souche qui est un peu différente des autres. Et il y a une période où, comme ça, chaque producteur de roquefort avait sa souche particulière, spécifique, qui faisait des arômes spécifiques. Et donc ça, c'était une forme de diversification du vivant. Et puis récemment, il y a eu une sélection beaucoup plus forte, depuis 100 ans à peu près, que ce soit dans les cultures de plantes, le maïs, le blé, et aussi les champignons du fromage. On a sélectionné très fortement un seul individu. Et donc par exemple, le camembert, une moisissure qu'on appelle le Penicillium camemberti, qu'on utilise aussi pour le brie. Mais ça fait seulement une centaine d'années. Quand on regarde des tableaux du 19e siècle ou des photos des années 1950, il y avait des bris bleus. C'était vraiment une moisissure bleue. Donc il y a un chercheur qui a sélectionné en fait un mutant albinos qui était incapable de produire le pigment. Et évidemment, l'aspect tout blanc, cotonneux est plus agréable. Mais ça veut dire qu'on n'utilise plus qu'un seul individu pour tous les bris et tous les camemberts. Et donc on a perdu toute la diversité qu'on avait sélectionnée pendant des siècles. Et c'est exactement la même chose pour le roquefort. On a sélectionné très récemment une seule souche qu'on utilise pour tous les fromages bleus, sauf pour le roquefort AOP, parce que l'AOP interdisait d'utiliser d'autres souches que les souches locales.
Ce qui présente un énorme problème, puisque à trop vouloir sélectionner de façon artificielle les champignons, on obtient des lignées donc de champignons qui sont complètement uniformes. Sauf qu'un champignon uniforme qui ne varie pas de génération en génération ne sera plus capable de s'adapter à son environnement qui, lui, évolue. C'est-à-dire qu'il fabrique de nouveaux pathogènes, par exemple. Et en face de ces nouveaux pathogènes, le champignon ne pourra plus s'adapter et finira par disparaître.
Alors, on sait bien, depuis Charles Darwin et la théorie de l'évolution par sélection naturelle, comment fonctionne l'évolution et l'adaptation à des nouveaux environnements. C'est vraiment un tri parmi la variation qui existe. Donc, c'est vraiment Charles Darwin a renversé la vision des choses où, depuis une vision fixiste, où on voyait un peu l'espèce comme quelque chose avec un type idéal autour duquel la variation était anecdotique. Il a renversé avec la vision que c'est la variation dans les populations qui est importante, parce que la sélection naturelle fonctionne comme un tri avec parmi ce qui existe, ce qui fonctionne le mieux. Et donc, il ne peut pas y avoir d'évolution et d'adaptation s'il n'y a pas de variation au départ. Donc ça, c'est vrai dans les populations naturelles, mais aussi dans les plantes cultivées et les champignons qu'on utilise pour les fromages. S'il n'y a pas de diversité, il ne peut pas y avoir d'adaptation et d'évolution.
C'est ça. Les champignons ont besoin d'évoluer pour s'adapter aux agents pathogènes, par exemple. Donc, on constate cet appauvrissement de la diversité des micro-organismes des fromages. Est-ce que ça signifie que nous allons voir ces fromages bleus, ces roquefort, ces gorgonzola finir par disparaître?
Alors, évidemment, l'évolution, ça fonctionne sur des générations et des générations. Donc, on sait en évolution que si on a qu'un seul individu et qui, en plus, pour ces champignons-là, on les multiplie uniquement de façon végétative, sans reproduction sexuée, qui permet de générer de la variabilité, au bout d'un moment, les génomes dégénèrent, les mutations s'accumulent, elles ne peuvent pas être purgées par reproduction sexuée, et donc au bout d'un moment, ça fonctionne plus. Et d'ailleurs, donc ces champignons qu'on utilise pour le fromage bleu et pour le camembert, ils sont moins fertiles, on n'arrive plus à les faire se reproduire de façon sexuée. Donc ils ont déjà accumulé des mutations délétères qui les empêchent de réaliser certaines fonctions qu'ils réalisent dans les milieux naturels. Alors après, à quelle échéance on n'aura plus de camembert ou de roquefort, c'est pas à 5, 10 ou même quelques dizaines d'années près, probablement. Donc l'idée, c'est plus d'alerter sur la baisse de diversité globalement dans nos plantes cultivées et dans nos micro-organismes.
La baisse de diversité au sein d'une même espèce, parce que oui, vous pointez la différence, il faut évidemment développer la diversité entre les espèces et aussi, et de façon aussi importante, la diversité au sein d'une même espèce. Par exemple, les pommes. Il existe des milliers de variétés de pommes, la Granny Smith, la Gala, etc. On a réussi à conserver cette diversité au sein de cette espèce, ce qui n'est pas le cas pour les champignons, par exemple.
C'est effectivement une des acceptions du terme biodiversité. Quand on parle de biodiversité, souvent on entend nombre d'espèces, ce qui est vrai, c'est un des aspects de la biodiversité, mais pas seulement. La diversité génétique au sein des espèces est aussi absolument essentielle à conserver. Donc, comme vous dites, on peut vouloir conserver l'espèce de pommier de son petit nom latin Malus domestica. Donc si je garde par exemple seulement les golden, les pommes, j'aurais conservé l'espèce. Mais si toutes les autres variétés de pommes disparaissent, on voit bien que j'aurais perdu une énorme quantité de diversité fonctionnelle. C'est pareil chez les chiens, c'est une seule espèce toutes les races, Canis lupus. Mais si je garde que le bulldog et que toutes les autres races disparaissent, j'aurais perdu énormément de biodiversité. C'est pareil dans les populations naturelles ou les champignons du fromage. Alors évidemment, les champignons du fromage, c'est un peu plus difficile à se rendre compte que telle souche de fromage bleu est différente de telle souche de fromage bleu, plus qu'entre un Golden Retriever et un Labrador. Et pourtant, ils peuvent donner des fromages complètement différents. Nous, on a fait des fromages expérimentaux de type Roquefort, en prenant des champignons de Roquefort ou de la même espèce qu'on trouve sur les fruits pourris. Et quand on a pris des souches de fruits pourris, les fromages étaient immangeables. Et pourtant, c'est la même espèce.
Et vous relevez aussi une expression que l'on emploie tous mal dans votre livre. On dit souvent qu'il faut maintenir absolument la biodiversité. Et en vous écoutant, on se rend compte que cette expression est impropre, puisque, on l'a dit, les espèces ne cessent d'évoluer. Donc il ne s'agit pas de maintenir les espèces telles qu'elles sont, mais de faire en sorte qu'elles puissent continuer à évoluer et à s'adapter. Et donc là, vous prenez l'analogie avec le vélo. C'est comme la biodiversité et comme un vélo, on parle d'un équilibre dynamique.
Oui, tout à fait. Quand on dit on veut préserver ou conserver la biodiversité, c'est un peu comme si on voulait la congeler dans l'état et qu'elle bouge plus. Et on se rend pas compte qu'en fait, la biodiversité ne peut persister, les écosystèmes peuvent persister que s'ils sont en mouvement, exactement comme un vélo, qu'ils évoluent, qu'ils s'adaptent à leur environnement. Et c'est très important, comme on disait tout à l'heure, les mots qu'on utilise, parce que si on veut conserver la biodiversité dans l'état, on pourrait dire on la met dans des collections de graines, on la met dans des zoos, on la met dans des parcs, on la conserve. Mais on voit bien que si on met trois individus dans un zoo, hors de son environnement, c'est pas maintenir la biodiversité. Même nous, n'importe quel être humain, hein, on est un équilibre dynamique entre ce qu'on mange, ce qu'on excrète. Et si on nous congèle, ben, on n'est plus un être vivant.
On ne pourra plus survivre au nouvel environnement qui nous entoure. On observe cette uniformisation des lignées, donc pas que dans les champignons et les moisissures du fromage, mais partout aujourd'hui, nos cultures, nos champs sont aussi victimes de cette baisse de diversité. Les cultures sont plus uniformes, moins résistantes aux pathogènes, ce qui favorise notre dépendance aux pesticides. Est-ce qu'on peut parler d'un cercle vicieux qui s'est installé aujourd'hui ?
Oui, je pense que c'est vraiment un cercle vicieux, effectivement. Hein. Si on considère le fonctionnement d'un écosystème et de la biodiversité, comme vous disiez, c'est vraiment une science, c'est un système complexe. Un écosystème, c'est des interactions entre plein d'espèces, et chaque espèce évolue en réponse à ses parasites, ses pathogènes, ses proies, ses prédateurs. On ne peut pas conserver une espèce en dehors de ses interactions avec toutes les autres espèces, en dehors de son écosystème. Et c'est exactement pareil pour notre agriculture. Si on produit une super variété de blé hyper performante et qu'on la plante sur des hectares et des hectares, bah, les pathogènes qui arrivent vont très rapidement s'adapter puisqu'ils auront des hectares de ressources. Eux, ils produisent des milliards de spores. Il y a une grande chance qu'il y ait une des spores, qu'il y ait une mutation qui lui permette d'infecter cette variété de blé résistante, par exemple, qu'on a produite. Donc, en uniformisant et en plantant sur des énormes surfaces, on favorise l'émergence de pathogènes résistants, par exemple. Et du coup, on favorise l'épandage de pesticides qui, eux-mêmes, appauvrissent les sols et rendent les plantes moins résistantes. Donc oui, c'est un cercle vicieux.
Et c'est pour ça que vous soulignez la nécessité de développer et soutenir l'agriculture biologique. Alors, actuellement, l'agriculture biologique traverse une crise profonde, nous en parlons beaucoup en ce moment. Pourquoi cette crise ? Alors, il y a plusieurs variables à prendre en compte, l'augmentation des coûts de production, la concurrence déloyale, etc. Et vous dites qu'il faut pourtant plus de surface en agriculture biologique, mais avec une nuance tout de même, vous dites le bio pour le bio n'est pas la panacée, il doit s'appuyer sur les avancées de la recherche pour intégrer des solutions techniques mettant la biodiversité au service de la productivité. Qu'est-ce que vous voulez dire par là ?
Effectivement, on a besoin de plus d'agriculture biologique parce que il y a des études scientifiques qui documentent clairement que les pesticides actuellement sont responsables d'un effondrement de la biodiversité, hein, de la biodiversité des sols, de la biodiversité des insectes. C'est vraiment une vraie crise grave, à mesure que même dans des environnements protégés, des zones naturelles protégées, il y a eu un effondrement des populations d'insectes. En 30 ans, il y a eu moins 80% des populations d'insectes. Et en grande partie à cause des pesticides qui sont répandus dans l'environnement. Donc, en plus, ces pesticides sont toxiques, ils empoisonnent l'eau, etc. Donc on a besoin de réduire les pesticides pour la biodiversité, pour nous, pour les insectes dont on a besoin. Hein, c'est aussi un autre service écosystémique pour polliniser les cultures et les plantes naturelles. Donc on a besoin de réduire les pesticides, ce qui veut dire augmenter l'agriculture biologique. Mais on va nous dire, on parlait du cercle vicieux, hein, on a une agriculture tellement homogène que sans pesticides, les maladies arrivent très vite. Mmh. C'est dans le sens où il faut changer complètement le système. Parce que pour pouvoir produire de façon biologique sans pesticides, bah, il faut réintroduire de la diversité dans les écosystèmes et donc changer complètement de système de production.
On a l'impression que biodiversité et compétitivité se font concurrence. Or, vous dites, alors ça peut être le cas à court terme, mais à long terme, vous dites que la biodiversité, c'est la condition sine qua non pour plus de compétitivité, en fait.
Exactement. Il n'y a pas de productivité sans fertilité des sols et il n'y a pas de fertilité des sols sans biodiversité. Il n'y a pas de productivité sans pollinisateurs et avec des pesticides, il n'y a pas de pollinisateurs. Donc on a absolument besoin de tous ces services écosystémiques, hein, des sols fertiles, des insectes, pour la pollinisation, mais aussi pour avoir de l'eau de bonne qualité, pour la régulation des flux de carbone, pour le recyclage de la matière organique. Tout ça, on ne peut pas l'avoir sans la biodiversité.
Alors, le saviez-vous, il existe une plateforme équivalente du GIEC pour la biodiversité, l'IPBES. Elle rassemble les meilleurs experts du sujet. Et en 2019, ils ont publié l'état des lieux le plus documenté jamais publié sur la biodiversité et les conclusions sont accablantes. Alors, pour donner un aperçu de la situation, on parle d'un million d'espèces qui sont menacées d'extinction, donc 40% d'espèces d'amphibiens. Pourquoi ces espèces-là sont particulièrement menacées ?
Alors, il y a plusieurs raisons que l'IPBES documente très bien pour les espèces en général et les batraciens en particulier. Donc, il y a la destruction de leurs habitats. Et alors, pour les batraciens en particulier, il y a une grave menace qui est un champignon pathogène émergent qui s'est répandu très vite sur toute la planète et qui est très généraliste, c'est-à-dire qui peut attaquer et tuer un très grand nombre d'espèces de batraciens et qui est en train de décimer les batraciens à travers le monde.
Donc ça, c'est donc dans le monde des amphibiens. On ne peut pas, nous, citadins, se représenter la situation au quotidien. Mais vous dites que même en ville, on peut se rendre compte de cette baisse de diversité. Vous racontez ça peut paraître anecdotique, mais par exemple, dans les villes, nous n'avons plus besoin de laver nos pare-brises tous les jours pour se débarrasser des insectes qui s'y collent. Une étude allemande a évalué à 75% la baisse du nombre d'insectes volants au sein d'un même espace donné. C'est énorme. On peut se rendre compte, même en ville, de cette baisse de diversité.
C'est effroyable, la baisse. Hein. On se souvient, ceux qui roulaient dans les années 70 se souviennent bien que, effectivement, quand ils faisaient des longs trajets en voiture, ils avaient sans cesse besoin de nettoyer leur pare-brise, alors que maintenant, ce n'est plus du tout le cas. Parce qu'il y a eu cet effondrement des populations d'insectes, et pas seulement dans les zones très anthropisées, pas seulement en ville, pas seulement dans les champs avec des pesticides, mais même dans les réserves naturelles.
Donc parmi les causes, on les a déjà évoquées, la sélection artificielle par l'homme, la destruction des habitats naturels, la pollution engendrée par les pesticides, il y a énormément de causes. Et on dit que la vie sur Terre est entrée donc, dans sa sixième extinction de masse, il y en a déjà eu cinq, vous l'avez dit tout à l'heure. Pourquoi celle-ci, cette sixième extinction, serait plus grave que les autres ?
Alors, il y a plusieurs facteurs. Pour l'instant, c'est vrai que quand on regarde le nombre d'espèces qui ont disparu, on peut se dire bon, c'est encore une infime fraction. Si on regarde chaque groupe, à part peut-être les batraciens, il reste encore beaucoup d'espèces, les écosystèmes restent fonctionnels. Pour l'instant, tout va bien. Le problème, c'est la vitesse d'extinction, donc qui est, par exemple, pour les batraciens, la vitesse actuelle d'extinction des espèces, elle est 150 fois plus grande que lors de la dernière extinction de masse. Donc si on extrapole, il peut y avoir encore plus d'espèces qui vont disparaître globalement. En plus, si on se place du point de vue uniquement humain-centré, en disant « et alors pour moi, quelle est l'importance ?» On peut se dire « c'est dommage que telle espèce de grenouille disparaisse, que telle espèce d'abeille disparaisse, mais bon, c'est quand même les populations humaines qui sont importantes, hein. Il faut quand même bien nourrir les populations, etc. » Mais ce qu'on ne se rend pas compte, c'est à quel point on dépend de toute cette biodiversité pour la survie des populations humaines. Et que cette sixième extinction de masse, donc il y a la rapidité, et il y a aussi le fait que, à la dernière extinction de masse, donc 75% des espèces ont disparu, après, la biodiversité s'est régénérée. On peut se dire, elle va se régénérer. Mais il y a deux problèmes avec ça. C'est qu'actuellement, une des causes de destruction de la biodiversité, c'est la destruction des habitats. Donc s'il n'y a plus d'habitats, les espèces, elles ne peuvent pas se régénérer. Premièrement. Le deuxième problème, c'est les échelles de temps. Par exemple, on estime, il y a une étude scientifique qui estime que le nombre d'espèces de mammifères qui vont disparaître dans les 5 prochaines décennies, il faudrait 10 millions d'années pour qu'elles se régénèrent. Donc, même si elles ont encore leurs habitats, leurs conditions, de l'eau pas trop polluée, il faudra 10 millions d'années pour les régénérer. Donc, ce n'est pas à l'échelle humaine que ça se refera.
Donc, la situation est dramatique, et vous insistez sur l'importance de bien choisir les mots pour comprendre la situation. Il y a un mot que vous souhaiteriez voir inscrit dans la loi. Ce mot, c'est écocide. Il n'existe pas actuellement de cadre juridique international pour punir les atteintes les plus graves à la biodiversité. Et vous, Tatiana Giraud, vous êtes favorable à l'entrée de ce terme.
Alors, il existe des encadrements juridiques pour les atteintes, mais seulement en temps de guerre pour l'instant. Pas en temps de paix ou dans très peu de pays. Mais effectivement, si on considère toute l'importance de la biodiversité, ne serait-ce que vraiment, encore une fois, du point de vue des populations humaines, à quel point on dépend de ces services écosystémiques, on peut se dire que ces atteintes contre l'environnement, c'est aussi des atteintes contre les populations humaines.
Alors, vous ne croyez pas vraiment au solutionnisme technologique? Pourquoi?
Évidemment, il peut y avoir de la technologie, la science. Je suis ingénieur, scientifique, je suis tout à fait consciente que la science et les technologies apportent un grand nombre de solutions. Mais il y a plusieurs problèmes à se dire, OK, il y a un problème de biodiversité, mais on va trouver des solutions, soit pour conserver les espèces, soit pour les remplacer. Donc, il commence déjà à y avoir des idées des constructions de drones, par exemple, pour remplacer les abeilles, pour polliniser. Mais si on considère ça, il y a plusieurs problèmes. Déjà, sûrement les plus petits agriculteurs, que ce soit dans nos pays ou dans des pays en voie de développement, tout le monde ne pourra pas avoir ces drones pour polliniser. Et une deuxième solution, c'est que ils vont pas polliniser toutes les espèces sauvages non plus. Donc on aura nos cultures, mais à côté, il y aura pas de forêt, par exemple. Et encore, on aura nos cultures à condition que les sols restent fertiles. Et en fait, ça participe aussi de déni, de se dire, il y a un problème, mais on verra bien plus tard, on aura bien une solution technologique. Donc d'éviter de se confronter vraiment au problème et de trouver des vraies solutions.
Actuellement, nous avons une idée assez claire de comment nous pouvons engager des actions pour lutter contre le réchauffement climatique, des actions individuelles, diminuer les transports en avion, privilégier les transports en commun, maintenir une température à 19 degrés en hiver. Donc, tout ça, ce sont des solutions pour lutter contre le réchauffement climatique. Mais est-ce qu'on peut aussi, par exemple, un citadin, est-ce qu'il peut engager des actions individuelles pour la biodiversité ?
Donc évidemment, il y a plein d'actions très utiles de la part de citoyens. Déjà, on peut s'engager dans des associations qui préservent la biodiversité, directement ou indirectement. S'engager dans, comme vous disiez, toutes les actions qui ne sont pas trop carbonophages vont être aussi utiles à la biodiversité. Il y a des actions, par exemple, manger moins de viande. Une grande partie des surfaces agricoles actuellement, que presque 70% des surfaces agricoles en fait, sont utilisées pour servir à nourrir le bétail qu'on va manger. Donc, c'est pas très efficace en termes de quantité de protéines produites. Et donc, plus on a des surfaces cultivées, éventuellement avec de plus en plus de pesticides, de destruction d'habitat, donc moins on mange de viande, plus on préserve la biodiversité.
C'est un cercle vertueux. Et donc, la place du citoyen est selon vous, centrale dans cette lutte pour une meilleure attention aux vivants. Et vous dites même dans votre livre qu'il ne faut pas espérer d'inflexion politique sans mobilisation civique, pour qu'il y ait mobilisation civique. Encore faut-il comprendre les sources du problème, et c'est le cœur du sujet. En fait, la biodiversité est une science complexe, peut-être plus complexe que le climat. En tout cas, elle est moins visible, plus difficile à appréhender, et c'est peut-être pour ça que la mobilisation est moindre. Et c'est pour cette raison que vous poussez aussi l'idée d'un enseignement obligatoire de l'écologie dans le secondaire, notamment.
Oui, c'est l'enseignement, évidemment, des sciences et des sciences écologiques et évolutives sont essentielles parce que c'est des notions très complexes et qui touchent directement à l'avenir des populations humaines. Donc, il faut pouvoir comprendre les enjeux et les problèmes. Effectivement, donc, le climat, c'est déjà une science très complexe, mais en gros, il y a une variable qui est la quantité de CO2 qu'on émet. Et donc, c'est assez facile à comprendre. Plus on émet de CO2, plus il va y avoir du dérèglement climatique. Pour la biodiversité, il y a tellement de facteurs, tellement d'écosystèmes différents, d'interactions entre des espèces, d'évolution de chaque espèce par rapport à d'autres. Donc un exemple récent d'une étude scientifique qui a été faite dans un parc au Kenya a montré qu'il y a une fourmi qui est devenue envahissante, donc qui est exotique, qui venait d'un autre continent, qui a envahi un parc au Kenya, et ça a fait décroître la population de buffles. On peut se demander quel est le rapport ? Il y a une fourmi qui a été introduite, qui a déplacé une fourmi native, parce qu'elle était plus compétitive. Et or, cette fourmi native, elle protégeait des acacias, des arbres, de leurs herbivores. Il y avait une symbiose entre les fourmis et l'arbre, où l'arbre, il abrite les fourmis, il produit des corps nutritifs exprès pour nourrir ces fourmis. Et en échange, les fourmis, elles agressent les herbivores qui viennent manger l'arbre, qui est ainsi protégé. Du coup, la fourmi exotique, elle a remplacé la fourmi native. Les acacias étaient plus protégés, ils ont été beaucoup plus mangés par les herbivores. Et du coup, les lions, ils n'arrivaient plus à se cacher dans les acacias. Ils n'arrivaient plus à attraper des zèbres que d'habitude, ils attrapaient. Et donc, les lions, ils avaient faim. Ils se sont rabattus sur les buffles et la population de buffles a énormément diminué. Et donc, on voit bien qu'on n'aurait pas été capable de prédire, a priori, en introduisant telle espèce de fourmi, que ça allait faire disparaître les buffles. Donc, ça montre à quel point les interactions entre les espèces dans un écosystème où, là, pourtant, il y a quoi, 4 espèces, c'est tellement complexe qu'on n'arrive pas c'est très difficile à prédire et à comprendre ce qui se passe. Et il faut des études sur des très longues durées pour essayer de comprendre ce qui se passe. Les écosystèmes, la biodiversité, c'est des systèmes extrêmement complexes et il faut une formation solide pour être capable de comprendre les enjeux et les conséquences possibles de l'effondrement de la biodiversité.
Des formations solides qui passent par la biologie. Et pourtant, vous dites que la biologie est une science souvent méprisée. comparé aux sciences physiques, par exemple, ou aux mathématiques.
Oui, en particulier, souvent l'écologie, où ça peut paraître comme, des fois, un peu une sous-science par rapport à des sciences qui sont considérées plus exactes. Mmh. Et pourtant, en fait, c'est parce que c'est un système complexe. Mais on voit bien qu'au contraire, c'est d'autant plus compliqué, il faut d'autant plus de ressources scientifiques pour arriver à comprendre.
Vous, vous avez enseigné cette discipline à l'université. Vous avez longuement enseigné à l'école, l'écologie, à l'école Polytechnique. Donc Polytechnique, qui est une grande école, une école prestigieuse qui forme des étudiants qui seront amenés à occuper des postes à haute responsabilité. Or, depuis quelques années, on observe dans ces écoles, qu'on peut dire écoles d'élite, à Polytechnique par exemple, mais pas seulement, AgroParisTech, l'école des mines, HEC, on observe de plus en plus d'étudiants désignés comme des étudiants déserteurs, c'est-à-dire des étudiants qui renoncent à travailler dans l'industrie, dans des secteurs d'activité auxquels ils se destinent, pour ne pas contribuer à la destruction de la planète. Vous, comment vous voyez ce mouvement-là ?
Effectivement, j'ai enseigné 12 ans à l'école polytechnique. J'ai vraiment vu un changement entre les premières années et les dernières années où les étudiants étaient de plus en plus conscients des enjeux, de plus en plus demandeurs de ces cours et comprenant beaucoup plus la matière et les conséquences. Et donc, c'est évidemment une bonne chose, cette prise de conscience chez les jeunes de l'importance de la biodiversité et d'arriver à la maintenir, ne serait-ce que pour le bien-être des populations humaines.
Mais sur cette du système. Enfin, est-ce que vous ne pensez pas qu'à travers ce mouvement-là, le fait qu'ils renoncent à changer le système de l'intérieur, en laissant la place à d'autres personnes qui se sentiraient moins concernées par toutes ces questions de biodiversité, est-ce que ça ne présenterait pas un risque finalement plus grave ?
C'est une question difficile. Hein. Est-ce qu'il vaut mieux rester au sein du système et essayer de le changer ou déserter le système c'est chaque personne qui peut sentir où elle se sent le plus utile.
En tout cas, ce livre, vous l'avez écrit pour embarquer le grand public, pour encourager une mobilisation citoyenne. C'était un de vos objectifs ?
C'est essayer de faire prendre conscience autant que possible à un maximum de personnes des enjeux autour de la biodiversité. Hein, que c'est pas juste, comme on disait, quelque chose de moyennement sérieux, observer 3 papillons, 5 fleurs et un champignon, voir comment ils vivent et comment ils interagissent. C'est vraiment quelle importance ça a pour les populations humaines, à quel point tous ces services écosystémiques fournis par la biodiversité sont essentiels pour les populations humaines.
Et c'est un ouvrage, on peut dire, indispensable pour ceux qui cherchent, à mieux comprendre les enjeux de la biodiversité et aussi les défis politiques que se pose sa préservation. Le volet politique est très important dans votre livre. Un grand merci, Tatiana Giraud, pour ces éclairages que l'on peut retrouver en détail donc, dans L'attention aux vivants, publié aux éditions de l'Observatoire. Et voilà, comme je le disais, les personnes qui le liront auront vraiment l'impression de comprendre plus en détail tous les enjeux scientifiques de la biodiversité. C'est très clair et vous condensez de nombreuses notions indispensables. Et en plus, il est assez rapide à lire. Donc merci beaucoup.
Merci beaucoup à vous. Avec plaisir.
Canal Académie.